France Inter.
h, c'est donc l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. 11 personnes arrêtées ce matin, dont 4 assaillants présumés dans l'attentat qui a fait 115 morts, bilan provisoire, dans la salle de spectacle de la banlieue de Moscou. Les suspects avaient des contacts en Ukraine, c'est ce qu'affirment les services russes de sécurité. Version immédiatement rejetée par Kiev. Rendez-vous en direct avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, dans un instant. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique, mais de quel État islamique parlons-nous? Entre la branche syrienne, la branche tadjik, la branche tchétchène, eh bien, nous aurons besoin des lumières de notre invité de 13h, Fabrice Balanche, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient. Nous irons à Londres, encore sous le choc après l'annonce de la princesse Kate qui dit se soigner d'un cancer. Et avec notre correspondant Richard Place en direct, nous essaierons de comprendre ce lien particulier qui unit la princesse Kate aux Britanniques. En France, des menaces terroristes envoyées la nuit dernière à des élèves de l'Académie d'Amiens. Le message évoque de possibles attaques dans 122 établissements scolaires des Hauts-de-France. François Bayrou, réélu ce matin président du Modem, le maire de Pau était le seul candidat. Et puis nous irons à Sainte-Soline faire le point sur les projets de ces méga-bassines qui profitent aux agriculteurs. Après ce journal, secret d'info, Jacques Monin, sur quel thème ?
On se doutait depuis l'automne dernier que l'Ukraine se trouvait derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, mais selon un consortium de journalistes d'investigation, le chef d'état-major qui a été limogé et nommé ambassadeur à Londres serait le cerveau de l'opération et les États-Unis en avaient été informés. On va donc vous expliquer ça.
À tout à l'heure, Jacques. Enfin le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec un ciel plus agité cet après-midi sur la moitié nord.
Oui, avec des averses plus fréquentes et parfois orageuses, ce sera également le retour du grésil.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Il tirait même sur les gens à terre. Les témoignages des rescapés racontent la détermination des assaillants hier au Crocus City Hall à Krasnogorsk, c'est dans la banlieue de Moscou. Il était 20h15 local, 18h15 en France. Le concert affiché complet, mais la salle de 6200 personnes n'était pas encore remplie. 115 morts selon un dernier bilan. Attentat revendiqué par l'État islamique. On va y revenir. D'abord, bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Eric.
En direct de Moscou, les moscovites qui se sont donc douloureusement réveillés ce matin.
Clairement, Moscou s'est réveillé en état de choc hein, ce matin, dans la grisaille, sous une pluie glaciale. La capitale russe semble groggy après la nuit d'enfer qu'elle a passée. La présence policière a visiblement été renforcée. Certains moscovites, comme Dimitri, avaient encore du mal à imaginer qu'un tel scénario ait pu se produire.
Конечно, шок.
Bien sûr, c'est un choc. Compte tenu du nombre de forces de sécurité à Moscou, je ne m'y attendais pas. C'est lié à l'extrémisme islamique, j'en suis plus que sûr. Et je ne parle pas de la politique migratoire. Je veux dire que tout le monde entre dans le pays. Et en plus, c'est une erreur de calcul des forces de sécurité.
Les forces de sécurité qui n'ont pourtant pas tardé à pointer du doigt vers l'Ukraine, les membres présumés du commando ont été arrêtés dans la région de Briansk, frontalière précisément de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et même s'ils n'en apportent pas la preuve, une implication ukrainienne est en cause, d'après le FSB. Maxime est convaincu par cette explication.
Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons politiques, je suppose. Avez-vous remarqué vers où les terroristes fuyaient? Où les a-t-on rattrapés? À la frontière avec l'Ukraine. Voilà.
Et Moscou tourne au ralenti. Hein. Ce samedi, tous les spectacles ont été annulés dans la capitale. Les autorités conseillent aux moscovites de rester chez eux et c'est probablement ce que beaucoup vont faire aujourd'hui.
Et ce matin, le FSB, hein, c'est-à-dire le Service fédéral de sécurité, annonce 11 arrestations, dont 4 personnes directement impliquées dans l'attentat. L'enquête avance parallèlement aux opérations de secours, Sylvain.
Oui, les opérations de secours qui se poursuivent hein, sur le site du Crocus City Hall où plusieurs corps ont été extraits des décombres ce matin. Le bâtiment a été ravagé une partie de la nuit par un très violent incendie. Aux dernières nouvelles, on est à 115 morts, mais certains bilans officieux évoquent déjà 140, 150. Le bilan va encore augmenter dans les heures qui viennent. Et puis du côté de l'enquête, les fuites qui sont actuellement orchestrées par les services de sécurité donnent une idée de ce qui sera certainement la version retenue par le pouvoir russe. Les suspects arrêtés sont de nationalité tadjik, qui pourrait accréditer la thèse de l'attentat islamiste, mais il y a déjà des vidéos qui circulent où l'on voit deux d'entre eux affirmer qu'ils ont fait cela pour l'argent, 500 000 roubles, 5 000 euros environ, témoignage à prendre avec beaucoup de précautions, manifestement recueillis sous la contrainte. Moscou ne commande pas directement la revendication de l'État islamique, mais affirme que les terroristes avaient des contacts en Ukraine. La thèse de la conspiration est donc en train de se dessiner apparemment. On verra ce qu'en dira Vladimir Poutine quand le chef du Kremlin sortira de son silence.
Effectivement, Vladimir Poutine qui n'a pas encore commenté cet attentat. Les dépêches citent plutôt le Kremlin ou bien les forces de sécurité russes. Quant aux Ukrainiens, Kiev rejette donc l'accusation russe d'un lien entre les assaillants et l'Ukraine. C'était Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et j'accueille Fabrice Balanche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient, auteur du livre « La leçon de la crise syrienne » paru chez Odile Jacob. Attentat donc revendiqué par l'État islamique. Que reproche cette organisation terroriste aux Russes ?
L'État islamique reproche aux Russes d'avoir participé à la coalition internationale, enfin, pas dans la coalition, mais avec la coalition contre ces bases, évidemment, en Syrie, entre 2014 et 2019. On a vu la disparition du califat sous les bombes américaines, mais aussi les bombes russes. Il lui reproche aussi de soutenir les régimes autoritaires, séculiers du Tadjikistan, de tous ces pays d'Asie centrale, contre lesquels justement les islamistes, dont l'État islamique, veulent la disparition. Et ça a toujours été la stratégie de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, c'est de frapper justement l'Occident ou frapper la Russie pour qu'ils retirent leur soutien à ces régimes et leur permettent de prendre le pouvoir.
Oui, mais cela dit, cela fait 5 ans, officiellement en tout cas, que l'État islamique a perdu de son influence en Syrie. Alors pourquoi cet attentat maintenant dans la banlieue de Moscou ?
Alors il a perdu son territoire, mais il reste toujours présent. Hein, pour me rendre souvent dans la région, je peux constater l'emprise de l'État islamique sur des régions comme Deir ez-Zor ou la province d'Al-Anbar en Irak. Et puis on a vu les attentats meurtriers aussi en Iran en janvier.
Et pourquoi maintenant alors ?
Pourquoi maintenant ? C'est l'opportunité. Aujourd'hui, ils ont reconstitué leur potentiel d'attaque après une mise en sommeil suite à leur défaite. Ils ont reconstitué ces cellules dans la banlieue de Moscou. Il faut se rappeler qu'on a eu des milliers de ressortissants d'Asie centrale qui vivaient en Russie, qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak, donc dans les années 2012 jusqu'à 2017. Les Tadjiks étaient notamment le bataillon le plus important dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Et la Russie participe toujours, je dirais, à ce qu'ils appellent l'oppression des musulmans. Et donc, il faut l'attraper.
Les premiers éléments de l'enquête russe ciblent effectivement la filière tadjik, hein. Ce qu'on a appelé peut-être les barbes rouges non arabes, originaires d'Asie centrale et du Caucase du Nord. C'est une caste à part au sein de l'État islamique ?
C'était les plus virulents, c'était les meilleurs guerriers avec les Tchétchènes. Donc ils ont cette réputation beaucoup plus que les Arabes ou que ceux qui venaient d'Occident. Et il faut se souvenir que la lutte des Russes par rapport au mouvement islamiste, que ça soit à Tchétchénie ou en Asie centrale, a été extrêmement féroce. Et donc ils y répondent par la même férocité.
Et donc pour être précis, quand on parle de filière tadjik, c'est la même chose que la filière tchétchène.
C'est à peu près. Alors les Tadjiks partaient à Moscou en Russie pour travailler dans des boulots mal payés, donc une grande frustration. Et ils étaient organisés donc par des cellules qui les radicalisaient et qui les envoyaient faire le djihad. Les Tchétchènes, eux, c'était différent. C'est plus des gens qui se sont répandus dans le Caucase, en Turquie, voire en Europe, et qui sont partis vers le Moyen-Orient, pas tellement vers la Russie.
Merci beaucoup de cet éclairage, Fabrice Balanche. Je rappelle votre dernier livre, La leçon de la crise syrienne, paru donc chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Emmanuel Macron exprime sa solidarité avec les victimes et surtout avec le... Pardon, j'enlève le surtout. Il exprime sa solidarité... et je vais y arriver, Emmanuel Macron exprime sa solidarité avec les victimes et aussi avec tout le peuple russe. Autre réaction en France, celle de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, était en meeting hier soir à Montbéliard dans le cadre des Européennes et ce matin sur un marché de Belfort.
Je tiens évidemment à adresser ma compassion, ma solidarité la plus totale avec le peuple russe et avec les moscovites qui sont endeuillés par cette attaque barbare qui rappelle un mode opératoire que nous avons connu sur le sol européen et sur le sol français. L'islamisme est probablement l'un des plus grands totalitarismes du XXIe siècle que nous allons encore devoir affronter. Et je pense que cette attaque ignoble doit aussi sonner pour nous comme une sommation. Voilà, et nous rappeler que l'ennemi est aussi chez nous et qu'il nous faut le combattre. Je pense que tout n'est pas fait pour mettre le peuple français en sécurité. Il y a des mosquées radicales qui continuent de prêcher la haine de nos valeurs. Et il y a des dizaines d'officines qui prônent une vision extrêmement dure de l'islam et qui, en théorie, n'ont rien à faire sur le sol de la République française. Et donc, tant qu'on sera faible à l'égard de nos ennemis seront forts à notre égard.
Et Jordan Bardella avec Élodie Forêt.
France Inter. Le journal de 13h. Éric Delvaux.
Des menaces terroristes envoyées la nuit dernière à des élèves de l'Académie d'Amiens. Elles sont parvenues sur leur espace de travail numérique. Un texte en français et en arabe que France Bleu Picardie a pu consulter. Il évoque de possibles attaques dans 122 établissements scolaires des Hauts-de-France. L'auteur se revendique de l'État islamique. Des plaintes vont être déposées. Brendan Chaban est professeur de français à Doullens. Lui-même a reçu le message. Il est aussi représentant du syndicat Sud Éducation.
C'est un contenu à caractère djihadiste qui profère un certain nombre de menaces à l'égard des enseignantes et des élèves, particulièrement agressifs et menaçants. C'est un contexte un peu particulier parce que depuis plusieurs mois, on a un certain nombre d'alertes à la bombe dans les établissements de l'ensemble du territoire et également aussi dans les Hauts-de-France. Donc on commence malheureusement à s'habituer à recevoir ce type de contenu. Il y a quelques jours, il y a un établissement d'Amiens pour lequel il y a eu une alerte à la bombe également. Donc nous, on est évidemment sur le qui-vive. Les enseignantes, les élèves, les parents d'élèves n'ont pas vocation à recevoir des messages de menaces ou de propagande djihadiste. Donc il nous semble qu'il faudrait absolument que le rectorat prenne la mesure de la situation et adresse un message à l'ensemble des personnels de la communauté éducative sans tarder, de manière à rassurer. Et puis il faudrait aussi que des mesures soient prises pour sécuriser les espaces numériques de travail, hein, parce que c'est pas la première fois que ce type de problème se produit.
Voilà, Brendan Chaban, professeur de français à Doullens, interrogé par Pierre-Antoine Lefort de France Bleu Picardie. François Bayrou, réélu ce matin président du Modem lors du congrès du parti à Blois. Le maire de Pau était le seul candidat à la succession de la présidence de ce parti qu'il a fondé lui-même en 2007. Un congrès avec des invités de marque aujourd'hui, dont l'ancienne première ministre Elisabeth Borne et l'actuelle Gabriel Attal. Également la tête de liste Renew aux Européennes, Valérie Ayet. Le Modem qui veut montrer qu'en 2027 aussi, il faudra composer avec lui, Laurence Perron.
François Bayrou, en lançant le Modem en 2007, avait eu cette phrase.
J'ai toujours trouvé que centriste, ça rimait avec triste, et j'ai donc toujours préféré dire central. Mais il me semblait depuis longtemps que l'enjeu, c'était qu'on ne nous désigne plus par une définition géographique, par référence à la droite et la gauche, mais qu'on nous désigne par notre identité. Démocrate, je vous salue.
10 ans plus tard, une alliance de raison qui a permis en 2017 l'élection d'Emmanuel Macron.
Je vais tout faire pour aider.
L'allié très exigeant d'une Macronie dont beaucoup pensent qu'elle disparaîtra avec la fin du mandat du chef de l'État. L'allié François Bayrou entend incarner non pas la petite parenthèse centriste dans un paysage politique clivé entre droite et gauche, mais un puissant courant qui travaille la République depuis 100 ans. Le Modem se revendique l'héritier du Parti démocrate populaire, fondé en 1924, sur la promesse d'un catholicisme social, refusant libéralisme et socialisme. François Bayrou devrait le rappeler lors de son congrès. Il existe une voie tempérée après 2027 et il y prendra toutes ses responsabilités.
Il est 13h14. Le cancer annoncé de la princesse de Galles affecte jusqu'aux États-Unis, où le président Biden dit prier pour son rétablissement. Depuis un mois, la princesse Kate subit une chimiothérapie et ce matin encore, les Britanniques sont sous le choc. Nous sommes à Londres avec vous, Richard Place, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Au début de l'année, le roi Charles avait annoncé son cancer. Eh bien, cette fois, l'émotion semble encore plus grande outre-Manche. Pour quelle raison ?
D'abord, pour une raison toute simple, Kate Middleton n'a que 42 ans, c'est jeune pour une telle maladie, et le roi en a 75. Et puis, vous l'avez dit, le mystère règne autour de l'état de santé de la princesse depuis plus de 2 mois, depuis une importante opération de l'abdomen. Il y avait donc une immense attente, d'autant plus grande qu'elle est au sein de la famille royale l'une des plus populaires, et elle est très active en représentation tous les jours, en robe de soirée ou en tenue de sport. Selon certains spécialistes de la couronne, Kate Middleton ferait même de l'ombre à son mari William, le futur roi, tant elle est
Richard, dans la vidéo publiée hier, quand la princesse Kate dit qu'elle souhaite le respect de sa vie privée, c'est une requête à destination de la presse surtout ?
Oui, nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité, dit-elle en parlant de sa famille. La presse tabloïde ici, on le sait, ne recule devant rien. Elle est intrusive, quitte parfois à se mettre même hors la loi. Mais elle choisit ses cibles et Kate n'en fait pas partie. Les principales figures de la famille royale en général sont épargnées. Pas comme Harry et Meghan qui ont choisi de s'extrader aux États-Unis et qui sont poursuivis et maltraités par ces journaux.
Ouais, vous n'êtes pas seul, hein, c'est le titre ce matin du tabloïde The Sun. En soutien donc à la princesse Kate. Et merci à Richard Place en direct de Londres. Nous partons à Hong Kong car c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Elle s'applique aussi désormais aux crimes politiques, ce qui n'était pas le cas dans la précédente loi imposée par la Chine en 2020. D'où la crainte désormais pour la population de Hong Kong d'être encore plus muselée qu'auparavant. Reportage à Hong Kong de Florence Dechangy.
Depuis le virulent resserrement sécuritaire à Hong Kong il y a 4 ans, il est très difficile de rencontrer des Hongkongais acceptant de commenter la situation politique. L'un d'eux, un infirmier d'une 30aine d'années, a accepté de nous parler à la seule condition que sa voix soit altérée, affirmant que la police avait la technologie pour retrouver une personne sur un seul extrait de voix.
Le message principal qu'ils veulent faire passer, c'est de réduire tout le monde au silence. C'est comme tirer sur un cadavre. On est déjà mort et on nous tire dessus une fois de plus.
Pour cette comptable qui espère quitter Hong Kong prochainement, il est toutefois faux d'imaginer que l'on avait déjà atteint le pire, car cette loi-ci va encore plus loin.
Ma crainte, sachant que quand la loi de sécurité nationale est entrée en vigueur en juillet 2020, ils ont procédé à des arrestations dans les heures qui ont suivi. Cette fois, je ne sais pas qui vont être les premiers ciblés.
Les premiers ciblés pourraient être les manifestants de 2019 qui ont choisi de s'exiler pour éviter des poursuites en justice, ou plutôt les membres de leur famille restés à Hong Kong, car la nouvelle loi prévoit notamment de punir toute personne qui soutiendrait directement ou indirectement un fugitif.
Ça fera 1 an lundi prochain à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, les manifestations interdites contre les grandes retenues d'eau que les opposants nomment les méga-bassines. Et bien ce week-end, les anti-bassines vont célébrer cet anniversaire avec des rassemblements festifs, des prises de parole également. 1 an après donc, on en profite pour faire le point sur l'état des projets de ces grandes retenues d'eau qui profitent aux agriculteurs. Reportage France Bleu Poitou de Vincent Hull.
La retenue de Mosée sur le Mignon fonctionne déjà depuis 2 ans. Celles de Sainte-Soline, Prière et Épane seront toutes les 3 opérationnelles d'ici à la fin de l'année. Le temps de finir de les construire, puis à l'automne de les remplir. Ces agriculteurs qui vont en bénéficier disent avoir besoin de se projeter. Rappel au passage qu'ils travaillent aussi sur une agriculture parfois gourmande en eau. Thierry Boudot, président de la COP de l'eau 79.
C'est un projet qui est tellement important pour nous et pour le territoire. Je rappelle qu'il a des dimensions à la fois de sobriété, d'économie d'eau, des retenues collectives, mais aussi une transition agricole, un modèle agricole qui est familial, dont on a tous besoin, diversifié avec de l'élevage.
Des agriculteurs qui veulent vite tourner la page.
Il y a 1 an, il y avait Sainte-Soline. Il y a 2 ans, il y avait Épane. Ça a été très dur pour nous. On a eu des destructions de fermes chez nos collègues qui nous ont beaucoup marqués. Donc on a des plaies qui restent ouvertes.
Thierry Boudot qui appelle ses collègues à rester tranquilles tout ce week-end et qui espère que la condamnation en correctionnel de certains manifestants de Sainte-Soline calme les esprits aussi du côté des anti-bassines.
Un dernier mot pour vous dire que la route principale d'accès aux stations de ski d'Isola 2000 et d'Oron dans les Alpes-Maritimes, cette route rouvre à partir de maintenant, samedi 13h, et des quelques minutes dans les deux sens. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Au nord de la Loire, cet après-midi, les averses seront plus nombreuses.
Oui, c'est vrai, plus fréquentes, parfois orageuses, avec du grésil et de bonnes rafales de vent. Un temps bien agité, donc. La neige, elle va continuer de tomber à basse altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, comme ce matin. On aura une impression plus hivernale que ces derniers jours, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des températures qui baissent franchement. On perd parfois jusqu'à moins 12 degrés hein, par rapport à hier, notamment à Nancy, où il faisait 21 degrés hier, plus que 9 aujourd'hui. Idem à Paris, 19 degrés hier, 11 cet après-midi seulement.
Oui, et c'est plus calme sur la moitié sud.
Oui, plus sec aussi, avec juste des nuages plus nombreux sur la partie ouest, mais aussi et surtout de larges éclaircies. Grand soleil pour le quart sud-est grâce à un vent soutenu qui chasse les nuages. Et qui dit grand soleil, dit température encore douce près de la Méditerranée. Là, on va perdre juste 1 à 3 degrés. Donc la moyenne reste très douce, 18 à 21 degrés. Ça reste doux également sur le reste de la moitié sud, mais en forte baisse par rapport à hier, avec une moyenne de 11 à 16 degrés. 26 degrés à Bordeaux hier, pour vous donner une idée. Il n'en fera plus que 15 cet après-midi.
Céline Dacosta.